Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Vous écoutez 6ème Science. C'est pas parce que tout le monde vous connaît que vous n'avez de secret pour personne. Et ce qui est valable pour vous ou moi l'est aussi pour des lieux. Malgré son millénaire d'histoire et ses 3 millions de visiteurs annuels, le Mont Saint-Michel reste un sacré cachotier aux nombreux mystères encore non élucidés. Ou en passe de l'être, car les recherches en cours sur ce petit îlot inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ont abouti à de jolies découvertes que l'on va s'empresser évidemment de partager avec vous. On en sait plus, mais on ne sait pas tout. Sous les pierres normandes reposent encore de nombreux secrets, le premier d'entre eux étant l'origine même des lieux. Pour ça, il faudra patienter jusqu'à la fin de l'épisode, car chez 6ème Science, on aime faire les choses dans l'ordre. Les 350 marches qui mènent au sommet du Mont Saint-Michel, on va les monter l'une après l'autre. Notre guide Marine Benoît, l'experte en archéologie de Science et Avenir, m'a garanti en tout cas une ascension sans effort. Bonjour Marine.
Bonjour.
Première question, et elle est toute simple. J'espère. C'est d'où vient notre passion pour le Mont Saint-Michel, qui est la première destination touristique en France après Paris et Versailles.
C'est une bonne question, mais visuellement, c'est déjà totalement incroyable. Cet enchevêtrement de bâtiments mi-roman, mi-gothique sur un rocher perdu au milieu des eaux qui ne semble pas relié à la terre. Enfin, c'est une merveille de la nature, quoi, aussi, cet endroit-là. Et ensuite, on a une merveille architecturale. Donc, il y a deux choses. Je pense qu'ils font qu'on est fasciné par cet endroit.
Le lieu attire les touristes comme des mouches, mais est-ce que c'est valable aussi pour les chercheurs ?
Alors oui, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le Mont, pas que, puisqu'il y a plein d'autres choses à étudier à travers le Mont. Hein. On n'est pas que spécialiste du Mont. Il y a le bâtiment, il y a les livres, il y a d'autres périodes archéologiques aussi qui sont plus anciennes que les bâtiments religieux. Donc, il y a quand même un certain nombre de chercheurs qui ont et qui travaillent encore sur le Mont, mais il y a assez peu, je me permets de le dire parce que c'est de leur aveu, assez peu de communication entre eux, malheureusement. Et donc, la dernière fois que leurs travaux avaient été mis en commun, c'était en 1966. Et donc, là, puisque c'est l'anniversaire donc, de la construction de...
Le millénaire,
voilà, de l'abbatiale romane, c'était le prétexte pour les conservateurs actuels pour organiser un grand colloque sur 4 jours où les chercheurs pouvaient justement présenter leurs travaux, se rencontrer, échanger. Et donc ça, c'est très important dans les travaux de recherche.
On a beau avoir tous les chercheurs du monde sur ce site, j'en rajoute un peu évidemment, mais il y a des zones d'ombre qui subsistent et pas n'importe lesquelles. C'est le sujet qui est sans doute très intéressant, mais qu'on ne va pas totalement explorer là tout de suite. C'est l'origine, les débuts en quelque sorte du Mont Saint-Michel. Là, on a une version sur l'origine, c'est celle que nous donnent les légendes. Quelle légende ?
On a des textes très anciens qui relatent les origines du Mont. Il faut vraiment quand même se dire que les textes moyenâgeux n'ont que peu grand-chose à faire de la véracité des faits. Enfin, il n'y a pas de souci de réalisme, on est vraiment là pour mettre en exergue le côté merveilleux d'un personnage ou d'un lieu. Donc ce texte, puisqu'il y en a un, nous dit qu'en 708, un homme, qui n'est pas n'importe qui est l'évêque d'Avranches, hein, qui est donc la ville d'à côté, a la visite de l'archange Michel, qui lui demande de construire, à sa gloire, un sanctuaire sur ce qu'on appelle à l'époque le mont Tombe, qui est donc ce caillou, faut imaginer le mont sans les bâtiments, donc c'est un rocher, c'est purement et simplement un rocher, donc une formation granitique qui est perdue au milieu de la mer, qui est quand même en plus exposée aux marées, mais au vent aussi, donc sans doute le pire endroit pour y construire une abbaye, ou en tout cas un sanctuaire à ce moment-là. Et donc, on peut comprendre que Aubert refuse. Donc là, je poursuis la légende. Aubert refuse une première fois. L'archange Michel revient le voir dans un rêve et lui redemande une seconde fois. C'est un second refus de sa part. Il reviendra donc une troisième fois. Et commence à se fâcher, l'archange Michel, puisqu'il décide, face à ce troisième refus, de poser son doigt sur le crâne d'Aubert et d'y faire un trou. Donc le doigt brûle le crâne et la voûte crânienne. Sur ce léger coup de pression, Aubert décide de s'exécuter et donc fait construire un sanctuaire en 708, dans lequel vont s'installer 12 chanoines.
Donc voilà, là on a la version officielle des faits. Comment ça se fait qu'on n'ait pas éclairci ce point-là depuis le temps ?
On tente de l'éclaircir. Alors, c'est vrai que la figure d'Aubert, on se demande encore si elle a existé. Est-ce que c'est un personnage historique ou est-ce que c'est un personnage légendaire ? D'ailleurs, au Mont-Saint-Michel, on vénère Saint-Michel, mais on vénère aussi Saint-Aubert, qui a été canonisé. Et pourquoi ? Parce que on a très peu de sources écrites, dont celle-ci qui vraiment ressemble plus à un récit légendaire qu'à une succession de faits historiques. Et puis aussi parce que l'archéologie, malheureusement, est un petit peu limitée sur une formation comme celle-ci, avec des bâtiments empilés les uns sur les autres. On ne peut pas vraiment creuser, on est dans de la roche. On ne peut pas vraiment faire de fouilles, des couches stratigraphiques, explorer en profondeur les choses. On a quelques éléments matériels sur lesquels s'appuyer. Notamment le crâne d'Aubert, ça on en reparlera après je pense. Mais voilà, on est bien obligé aujourd'hui de se contenter un peu de ce qu'on a.
Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce qu'une initiative aussi folle et un lieu qui va devenir majestueux, mais dans le temps, laisse des traces dans les écrits. Et on peut aussi s'attendre tout simplement à ce qu'une abbaye ou un sanctuaire qui soit créé ait lui-même sa propre bibliothèque et ses propres récits. Oui. Comment ça se fait qu'on n'en ait pas de traces ?
On va dire que le Mont-Saint-Michel a un peu souffert sans doute de sa notoriété. Effectivement, pour une abbaye de cette ampleur, dès le XIe siècle, on a très très peu de sources écrites. Il y a des abbayes plus petites qui en ont bien plus. Et là, malheureusement, c'est les aléas de l'histoire. Il y a eu aussi des conflits armés autour du Mont. Le Mont a servi de base. Et donc, ça s'est perdu dans les affres de l'histoire. Sans doute aussi parce que c'était un endroit plus connu, sur lequel il y avait plus de désir, de posséder ces documents. Et puis, il y a eu ensuite, malheureusement, je pense que ce qui a achevé de rendre aussi pauvres les sources écrites, c'est les bombardements durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu encore des pertes.
Donc, nos scientifiques n'ont pas de bouquins à se mettre sous la dent. Alors, sur quoi ils vont s'appuyer pour remonter au début du Mont-Saint-Michel ?
Alors, il y a quand même des fouilles qui peuvent être faites, donc qui vont s'appuyer fort heureusement sur l'archéologie, puisque c'est vraiment leur outil. On a des fouilles qui sont effectuées notamment dans les zones du village, donc ce qui est l'actuel village, en fait, ça n'a pas vraiment changé. Et puis, on peut aussi remonter, voir les fondations du bâtiment, essayer de comprendre un petit peu l'empilement, la succession, la chronologie de la construction. Donc, on va s'appuyer sur une chronologie du bâtiment pour essayer de mieux saisir cette histoire.
Même en termes d'histoire, on dit que Saint-Michel fête en 2023 son millénaire, mais tu disais que Saint-Aubert avait été visité en 708. Ça fait un peu plus qu'un millénaire.
Oui, alors on ne prend pas la date de 708 tout simplement parce qu'on n'a pas de traces du sanctuaire édifié par Aubert. On ne sait pas s'il a existé. En tout cas, aujourd'hui, on a un bâtiment qui est Notre-Dame sous terre, qui est donc le bâtiment le plus ancien à ce jour, qui a été daté au Xe siècle. Mais Aubert, en effet, on est au 8e. Donc, on se demande si ce bâtiment, il n'est pas en dessous ou tout simplement si Notre-Dame sous terre n'est pas un remaniement du sanctuaire d'Aubert.
Oui, ok. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas repris des bouts
Ce qui est fort possible. Typiquement, c'est le cas de figure où on ne peut pas vraiment aller fouiller plus bas que Notre-Dame sous terre.
Comment les scientifiques font-ils pour savoir que, avant même que Saint-Aubert décide d'y installer un sanctuaire, qu'il y avait déjà une population sur ce rocher relativement peu hospitalier ?
Parce qu'on peut fouiller l'environnement aussi des constructions religieuses. On a un village, on peut fouiller la terre, ces endroits-là. Donc on a trouvé des traces d'occupation dès le 8e siècle. On a les traces d'un bourg et aussi d'une activité funéraire. Par ailleurs, on pense aussi que l'occupation en réalité remonterait à bien plus loin que le 8e siècle, à l'âge du bronze déjà. Il est fort possible qu'il y ait eu des populations
courageuses.
Courageuse, oui.
En parlant de courage, Saint-Aubert, tu l'as dit, a plié face à l'archange. Ça, c'est la version légende, le récit officiel de l'Église. Mais on peut s'attarder sur le reliquaire et le crâne de Saint-Aubert. Vous pouvez trouver les photos sur Google. Vous tapez crâne de Saint-Aubert. Il y a un crâne avec un trou qui est vénéré, qui est super important. Je crois qu'il repose à Avranches. Est-ce qu'on sait si ce crâne, c'est vraiment celui du fondateur de Saint-Michel ?
Alors, ce qu'on sait... En effet, déjà, on a ce crâne avec le trou, c'est déjà pas mal. Quand même, on nous parle d'une figure de légende qui est Saint-Aubert, qui a eu le crâne troué par un archange avec son doigt. On a un trou qui est un peu plus grand que le diamètre d'un doigt, quand même.
D'un doigt humain, c'est pour ça.
D'un doigt humain, oui. C'est vrai qu'on peut imaginer qu'il était très grand, un peu titanesque. Et donc, on peut s'appuyer sur des ossements et donc une analyse anthropologique. Évidemment, on ne va pas avoir le verdict « oui, il s'agit bien d'Aubert ». Néanmoins, il y a une étude assez poussée qui a été récemment faite, donc entre 2019 et 2021, qui est à la date de la publi, par une équipe d'anthropologues et de médecins, de légistes, qui nous dit que, déjà, ce qu'il fallait évacuer, c'était la question d'une fausse relique. Puisqu'au Moyen-Âge, enfin à la Révolution surtout, pardon, on a fabriqué beaucoup de fausses reliques Donc, c'était en fait des ossements qu'on prenait à droite à gauche, qu'on patinait un peu, qu'on attribuait à des saints pour vénérer telle ou telle figure et donner de l'importance à telle ou telle église. Et ça, c'était quand même la priorité. Il s'avère que c'est un crâne qui est bien contemporaine de l'époque d'Aubert. On sait que c'est le crâne d'un homme qui était un mérovingien. Donc, c'est un bon début. Et ensuite, concernant le trou, c'était une hypothèse qui avait été mise sur la table à un moment. Il ne s'agirait pas d'une malformation de naissance, mais bien d'un acte chirurgical. Donc,
une trépanation.
D'une trépanation, à laquelle le sujet aurait survécu de longues années derrière.
Okay.
Donc ça, c'est simple, il suffit d'observer. Il y a un petit bourrelet osseux en fait, qui s'est formé autour du trou, ce qui est une forme de cicatrisation osseuse, qui prouve qu'il y a eu cette cicatrisation, donc que ce n'est pas quelque chose de naissance.
Mais c'est une opération qu'on réalisait plutôt pour « guérir » entre guillemets de la folie, non ?
Alors oui, ça pouvait être pratiqué pour ces raisons-là, mais là, pareil, on aurait pu penser que c'était un trou qui avait été effectué post-mortem, pour justement rendre plus consistante la légende. Or, ce n'est pas le cas. On sait que ça a été fait du vivant de l'individu. Honnêtement, là, c'est très difficile de répondre à cette question. Les raisons pour lesquelles ce bonhomme avait un trou dans le crâne.
Mais si jamais vous voulez l'observer, sachez que le crâne, cette année, est présenté sur place hein, à Saint-Michel pour célébrer le millénaire de l'abbatiale. Alors, j'utilise ce terme-là parce que j'aimerais bien que tu nous dises ce qu'est une abbatiale.
Une abbatiale, c'est tout simplement l'église d'une abbaye. Voilà, ça désigne le bâtiment. La structure architecturale, et dans le cadre où on veut parler du lieu, du monastère, on parle d'abbaye et pas d'abbatiale.
Et il y a une découverte qui concerne cette abbatiale, c'est que architecturalement, on la croyait faite d'un seul tenant, d'une seule époque, alors qu'en fait, c'est un peu un melting pot, on va dire, de différentes interventions.
Exactement, oui, on se rend compte qu'il y a des interventions, donc enfin, une première phase de construction 11e siècle, puis on a des traces de remaniement et d'ajout au 12e, et puis au 13e. En fait, on ne pensait pas que c'était si hétérogène. Ça, déjà, c'est une surprise pour les archéologues.
Visuellement, ça paraît à peu près homogène.
Oui, c'est important pour les archéologues et pour les historiens, parce que ça va déterminer le visage du mont, à quoi ressemblait le mont au 11e, au 12e, au 13e. Je sais qu'un historien avec qui j'ai pu discuter, Fabien Paquet, me disait « Un de mes regrets, c'est de ne pas savoir à quoi ressemblait le mont quand on se tenait face à lui au 11e siècle. » Ben voilà, c'est ce genre d'informations qui peuvent nous permettre de reconstituer cette image, cette photographie, en fait.
Le village médiéval que tous les visiteurs connaissent, hein, avec ses vendeurs de galettes à l'entrée du village, cet aspect-là, qui est très public, très connu, abriterait lui aussi sa part de secret.
Oui, parce que là, pareil, on pourrait pousser les fouilles plus loin. Alors, on sait que le mont est devenu très tôt hein, dans l'histoire un lieu de pèlerinage. Et donc, en fait, là où il y a les boutiques actuelles, les glaciers, les restaurants, etc., il y avait déjà des boutiques, des petites enseignes dans lesquelles on vendait des souvenirs aux pèlerins. Et donc, on peut très bien aussi retracer toute une histoire plus vernaculaire, on va dire, peut-être. Peut-être un peu moins glorieuse. Un peu
la
moins,
vie voilà, du quotidien.
La vie du quotidien, à ces niveaux-là du mont. C'est précisément à ces endroits-là qu'on pourrait pousser les fouilles, les multiplier pour recueillir plus d'informations sur ces occupations antérieures, plus anciennes, qui remonteraient, on pense, à l'âge du bronze.
On a beaucoup parlé des débuts du Mont-Saint-Michel, même si on n'a pas toutes les billes hein, pour comprendre tout ce qui a pu se passer. Mais quelles sont les autres périodes marquantes dans l'histoire de l'abbaye, mais aussi plus généralement du Mont-Saint-Michel ?
On peut en détacher deux. Pendant la guerre de Cent Ans, le mont va devenir une forteresse, donc militaire. Il va prendre son aspect un peu guerrier. Et puis, au XVIIIe siècle, il va devenir une prison. Voilà. Donc, avec des conditions carcérales, on l'imagine relativement difficile.
Alors, sur une note moins historique, peut-être moins grave, hein, plus touristique, j'ai découvert dans ton dossier que le Mont-Saint-Michel était copié de par le monde, mais qu'il était lui-même fortement inspiré d'un autre lieu. Est-ce que tu peux me dire qui est le copieur et qui est le copié ?
Alors, les copieurs, c'est les Anglais. Non, on a effectivement une imitation du Mont-Saint-Michel en Angleterre, en Cornouailles. Donc, il y a un lieu qui s'appelle, qui est un petit Mont-Saint-Michel en fait, hein, ça ressemble énormément, qui s'appelle le St. Michael's Mount et qui a été construit, érigé peu de temps quand même après le Mont-Saint-Michel. Donc on est dans une même période historique quand même, on est toujours au Moyen-Âge. Et en réalité, il va être très relié au Mont-Saint-Michel en lui-même puisque pendant plusieurs siècles, les moines qui sont dans cette abbaye de St. Michael's Mount sont des moines du Mont-Saint-Michel en fait, sont des Français. Et ce n'est que plus tard, donc Henri V d'Angleterre va à un moment redonner le lieu aux Anglais. Ça, c'est donc pour les copieurs.
Il est très beau, hein, on le voit en photo dans le dossier.
Oui, il est très beau. Les copiers, ce sont les Italiens, puisqu'on sait que dès le 5e siècle, a priori, enfin, nous dit la légende, un lieu qu'on nomme le Monte Gargano, qui aujourd'hui s'appelle plus pareil, s'appelle le Monte San Angelo, a donc abrité un sanctuaire qui a fortement inspiré le Mont Saint-Michel. Il s'agit d'une grotte avec une formation. Enfin, il y avait un sanctuaire, il n'y avait pas grand-chose, mais la légende nous dit, là encore, qu'Aubert aurait totalement assumé ce lien de parenté, donc s'être inspiré du Monte Gargano, puisqu'il aurait envoyé deux de ses hommes, en fait, le voir et puis lui rapporter des croquis.
Sachant que c'est Saint-Michel qui adorait au Mont Saint-Michel, hein, mais aussi au Monte Gargano.
Tout à fait. Donc vraiment, on a des liens dans tous les sens, là. Saint-Michel, il a imposé sa patte, posé son doigt sur l'Europe, à ce moment-là, sur l'Europe occidentale.
Donc là encore, vous pouvez trouver des photos assez facilement. C'est nettement moins impressionnant que le Mont Saint-Michel, puisque tu le disais, c'est vraiment les tout débuts du Mont Saint-Michel qui s'inspire donc d'une construction qui n'est pas aussi majestueuse.
Oui, puis on parle d'une construction, la construction d'Aubert, on ne sait pas à quoi elle ressemblait. Hein, donc là, vraiment, c'est difficile de créer visuellement du lien.
Oui, en tout cas, on peut dire que l'élève a dépassé le maître.
Oui.
Eh bien, merci beaucoup, Marine. Moi, je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour continuer, comme d'habitude, à envoyer de la science dans tous les sens.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.